Bonsoir à toutes et à tous, un nouveau rendez-vous de Wagon Livre, votre émission littéraire, chaque mercredi à 21h sur Radion. Un nouvel invité, bien évidemment, devant notre micro ce soir. Il est originaire de Bretagne, il a 50 ans, il a passé une grande partie de sa vie en région parisienne et il a travaillé dans les systèmes d'information. Amoureux de la Bourgogne, il a choisi de s'y installer puisqu'il réside au sud de la Nièvre, à Villapourçon très précisément, au cœur du Morvan. Il a créé sa maison d'édition qui s'appelle Scriptosum, qui arbore en logo la posture de Marcel Proust, le mentor de notre invité qui le considère comme le Zeus de son panthéon littéraire. Dominique Drouin, bonsoir.
Bonsoir Yannick.
Merci à vous d'être l'invité de Wagon Livre ce soir. Émission, d'ailleurs, je le précise, qui est enregistrée à Avallon, à l'hostellerie de La Poste, qui nous accueille ici dans cette belle cité avallonnaise. Dominique Drouin, vous êtes l'auteur de plusieurs romans, mais nous allons ce soir nous intéresser, j'allais dire, au seul qui est disponible pour l'instant, qui est édité donc chez Scriptosum et qui a pour titre « Tiroir, tiroir ». Alors, c'est un roman, je le dis dès à présent, un roman au style très travaillé. On peut dire qu'il reflète un véritable artisanat de l'écriture, un travail d'orfèvre, de ciselage, de polissage de la langue. On aura bien évidemment l'occasion d'en parler. Et votre roman, « Tiroir, tiroir », est l'histoire d'une recherche d'éditeur. C'est un auteur, un écrivain qui recherche un éditeur. Alors le narrateur, dévoré par l'ambition littéraire et l'ambition éditoriale, connaît l'échec. Il connaît l'échec et en fait, votre roman est la mésaventure éditoriale de votre personnage est à rebours du projet proustien. Parce que chez Marcel Proust, le narrateur proustien lui découvre qu'il va devenir écrivain. Dans Tiroir, tiroir, Dominique Drouin, votre personnage, c'est-à-dire fait le parcours inverse, c'est-à-dire que désireux d'être publié, il va finalement renoncer à ses ambitions éditoriales et redevenir, j'allais dire, un simple vivant, tout simplement.
Absolument, vous avez très bien résumé le projet de ce livre, Tiroir, tiroir. C'est tout à fait la courbe narrative principale de l'ouvrage, on va dire que c'est la plus grande longueur d'onde qui traverse cet ouvrage, à savoir les revers par rapport à une recherche d'éditeur. Et dans la foulée, cette recherche d'éditeur infructueuse amène à revoir également les ambitions littéraires, c'est-à-dire que cet échec, en fait, emporte avec lui également l'ambition littéraire, ce qui fait qu'en effet le personnage à la fin est dans une situation inverse, complètement inverse de celle du projet de la recherche du temps perdu, puisque le narrateur se résigne, comme je le dis quelque part, se résigne à vivre tout simplement, et le dernier paragraphe est assez clair là-dessus.
Peut-on dire, Dominique Drouin, que votre narrateur vous ressemble dans cette aventure de la recherche d'un éditeur, car vous avez connu aussi, c'est finalement la difficulté majeure pour toute personne pour qui l'écriture est le moteur de l'existence. Trouver un éditeur, être lu, partager ce que l'on écrit.
Tout à fait. Alors, on ne peut pas se cacher le fait que on met toujours de soi dans un écrit, et il le faut, bien sûr. Maintenant, il faut, à mon avis, lorsqu'on projette de faire une fiction, de faire un roman, forcément, le texte va se nourrir d'autres aspects, des aspects purement imaginaires, complètement fictionnels, et qui va par contre représenter une potentialité du moi de l'auteur, mais amener à une espèce de summum pour servir le projet narratif avant tout, parce qu'il s'agit de ça avant tout, il s'agit bien de servir le roman, le texte.
Alors, écrire avec Proust, omniprésent dans le coin de son inspiration, dans le coin de la recherche écrite, c'est ambitieux, c'est même presque une épée de Damoclès littéraire
Oui,
au-dessus de la tête.
alors d'ailleurs, Jean-Charles Cougny s'en était amusé dans Vent du Morvan. Je l'en remercie d'ailleurs d'en avoir au moins parlé. Je crois que dans la vie et dans la formation d'un auteur, il y a des lectures, bien sûr, qui sont éminemment nécessaires, même si d'aucuns considèrent qu'on peut s'en passer. Et puis il y a des rencontres, des véritables rencontres, c'est-à-dire que des rencontres avec des œuvres. Et ces œuvres-là interpellent réellement le travail de l'écrivain lui-même. C'est-à-dire que vous allez au-delà de la lecture. Il s'agit réellement d'une expérience littéraire. C'est une véritable plongée dans la langue, une véritable plongée dans l'écriture. Et s'il y en a un avec qui ça s'est passé comme ça pour moi, c'est évidemment Marcel Proust, dont je considère que l'œuvre est un sommet de la littérature mondiale.
Est-ce à dire, Dominique Drouin, que sans Proust, votre existence aurait peut-être eu une autre forme?
Bien, la question est très intéressante puisque Proust a été une rencontre en fait en deux temps. La première, lorsque j'avais 17 ans, j'ai lu Un amour de Swann, donc qui n'est qu'une partie de Du côté de chez Swann, bien après Combray. Et alors, il faut croire qu'à 17 ans, non seulement on n'est pas sérieux, mais on n'est peut-être pas, en tout cas moi, je n'étais pas tout à fait apte à recevoir ce texte, puisque ça m'a laissé tout à fait indifférent. Et à l'époque, je n'étais pas capable de nommer ma réaction par rapport à ce texte, mais je pense que si j'avais dû la nommer, si j'avais pu la nommer, je pense que j'aurais été assez proche des mots de Gide, disant « Oh, ces histoires de duchesse et de comtesse, ça me passe un petit peu au-dessus de la tête ». Et puis, à l'âge de 30 ans, alors je ne sais à la faveur de quel déclic, j'ai demandé à ma mère de m'acheter la totalité de La recherche du temps perdu. Je pense que Proust venait de tomber dans le domaine public. Folio s'était fendu d'un coffret intégral de La recherche du temps perdu. Et j'avais demandé, très audacieux et très, très ambitieux, j'avais demandé qu'on m'offre la totalité de ce texte, et enfin de cette œuvre. Et j'ai plongé là-dedans, et je me souviens des mots de Jean Genet lui-même à propos de Proust, qui n'était pourtant pas le public tout à fait idéal. Jean Genet dit qu'à partir du moment où il a commencé à lire La recherche du temps perdu, il est passé de merveille en merveille. Et ça a été exactement l'expérience que j'ai eue.
J'ai dit, en vous présentant Dominique Drouin, que vous aviez retenu comme logo de la maison d'édition que vous aviez créée, donc un logo qui représente
Proust,
le célèbre visage de Proust que
Proust
l'on connaît, flouté.
Voilà, rendu à sa posture.
Et pourquoi cette posture? Pourquoi le mot posture plutôt que le portrait ou le visage de Proust? C'est la posture, donc avec ce doigt sur la joue, cette élégance, ce raffinement très fin 19e siècle.
Voilà. Alors, bon, Proust parce que c'est en effet comment dirais-je, le foyer d'influence privilégié qui m'a formé en tant qu'auteur. Alors, quand on dit influence, ça ne veut pas dire qu'il faut comment dirais-je, ne vivre qu'à travers ça. Il faut les reconnaître, il faut en être conscient, et puis les dépasser pour aussi avoir sa propre voix, sa propre expression. Alors, Proust, comme figure, comme logo dans le logo que j'ai retenu pour cette maison d'édition, il y a eu un dessin fait à partir de ce portrait célèbre de Proust, et le but c'était en effet d'en extraire en effet cette posture. Il ne fallait pas forcément qu'on reconnaisse le personnage, même si on reconnaît Proust, mais il fallait vraiment qu'on reconnaisse cette posture de façon à ce... Enfin, cette posture pour moi est emblématique du personnage, enfin de la personne de Marcel Proust, et donc de ce niveau d'exigence et d'engagement dans l'écriture.
Dominique Drouin, on vous retrouve dans une poignée de minutes. Je rappelle que cette émission est enregistrée à l'hostellerie de La Poste, ici à Avallon. On va donc offrir, et c'est vous qui offrez à nos auditrices et auditeurs, le premier intermède musical de l'émission. Voici donc un morceau de Bach, clavier bien tempéré, c'est le prélude 10 en mi mineur, 2 minutes de pureté et de douceur dans Wagon Livre, votre émission littéraire, chaque mercredi à 21h. Bonne soirée sur Radio, on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité Dominique Drouin pour son roman Tiroir, tiroir.
regard qui se perd dans la brume, un naufragé volontaire. Sous l'écume, j'ai traversé toutes mes nuits, seul ton sourire au fond de l'âme. La mémoire à la mer, je dérive comme un enfant sans repère. Je m'enivre à deviner ton étoile au ciel, ton sourire au bord des larmes. C'est ma peau. Le regard vers la terre, je veux vivre à l'horizon qui s'éclaire. Je veux suivre enfin le courant des idées neuves que les vanités condamnent. Sur ma peau, j'ai signé mes promesses.
Ensemble jusqu'à 22h sur Radion en compagnie de Dominique Drouin, auteur d'un roman intitulé Tiroir, tiroir, roman disponible aux éditions Scriptosum, et on peut notamment se le procurer via votre site, Dominique Drouin, Scriptogramme, hein, à partir d'un moteur de recherche, Scriptogramme Dominique Drouin, on vous trouve voilà. Très facilement. Alors, l'écrivain que vous êtes, Dominique Drouin, m'amène à vous demander dans quelles conditions vous écrivez. Parce que on va rentrer dans le vif de l'écriture de Dominique Drouin, c'est-à-dire une écriture très travaillée. Hein. On sent un travail de rigueur, de recherche. J'ai parlé même de laboratoire linguistique où effectivement on prend les mots, on en forge, on les sculpte, on les cisèle, on travaille la phrase. Enfin, il y a bien évidemment... j'allais dire une volonté d'offrir au lecteur la langue la plus harmonieuse dans une phrase très très travaillée. Et j'imagine qu'on écrit dans un contexte bien particulier. Alors, est-ce que vous faites partie de celles et ceux qui écrivent dans le silence absolu? D'ailleurs, dans votre roman, vous parlez de l'ambroisie du silence, superbe périphrase. Ou est-ce que vous avez besoin, Dominique Drouin, de la rumeur des gens qui passent, c'est-à-dire est-ce que vous aimez écrire dans les ambiances des bars, des terrasses ou des cafés?
Alors, dans le processus d'écriture, moi, je vis deux temps. J'ai en réalité deux temps. Il y a le temps où ce qui va se présenter à l'œil va être considéré comme digne d'être mis en écriture. Et dans ce cas-là, il va y avoir un processus mental pas forcément volontaire, qui va simplement découler de la situation vécue. et où je vais simplement détecter un potentiel d'écriture, un potentiel de mise en écriture, un peu comme peut-être un peintre voit une scène et qui se dit, ce serait pas mal de la mettre en peinture, enfin de la fixer quelque part sur un médium. Donc ce processus-là, il est relativement aléatoire, il est au fur et à mesure de la vie, de ce qu'elle va présenter sous mes yeux. Et donc là, nécessairement, il y a le petit carnet sur lequel je vais d'abord malaxer dans ma tête, puis reporter sur ce carnet la scène en question. Donc ça, c'est le temps, on va dire, de capture, un petit peu comme on va à la chasse aux papillons, sans chercher forcément l'opportunité, mais en étant en tout cas aux aguets de toute opportunité qui va se présenter. Et puis la deuxième phase qui est en effet nécessaire, qui est la mise en forme de tout ça, c'est-à-dire l'intégration dans un projet plus vaste, un projet narratif plus vaste, où certains de ces morceaux vont trouver place, ou d'autres vont être délaissés, bien sûr. Et là, effectivement, il va falloir le silence, absolument. Et je pousse parfois même le vice jusqu'à chausser des boules-quies pour n'entendre en fait que la sonorité. J'avais dit à quelqu'un que ces boules-quies me faisaient à peu près le même effet que le gueuloir pour Flaubert. Je n'avais pas besoin de forcément vociférer les phrases, mais simplement par le fait d'être enfermé en soi grâce aux boules-quies, en tout cas phoniquement, eh bien ça suffit pour se donner une idée de la sonorité de la phrase et de sa validité.
Tiroir, tiroir, c'est le titre de votre roman.
Oui.
Alors bien sûr, en écho, puisqu'on est dans les sonorités, en écho, on entend, et il y a cette proximité, on est dans la paronomase, tiroir, tiroir, fait penser à miroir, miroir. Alors, le tiroir, la quatrième de couverture, nous dit où, comment la forme excédant le fond apparent finit par créer son propre fond. Un double fond, donc, comme à un tiroir. Un tiroir doublé, en somme. Alors, est-ce que le tiroir est la métaphore du travail romanesque ?
Alors, la métaphore, peut-être pas, mais tiroir, tiroir, je l'ai choisi au bout de plusieurs propositions internes, en tout cas. Celui-ci m'a paru à la fois drôle, simple, clair, par rapport au précédent qui m'était venu en tête. J'y vois surtout deux choses. Enfin, le tiroir, c'est l'endroit un petit peu mortuaire où finissent les manuscrits inédits. Et puis, en effet, vous l'avez bien entendu, tiroir, tiroir, on entend cette double interrogation de la reine d'un conte célèbre, se demandant si elle est la plus belle, si elle est la plus aboutie. Une forme littéraire doit se poser cette question aussi, de savoir à quel point d'aboutissement elle l'est. Donc il y a un petit pied de nez dans ce tiroir-tiroir finalement, puisque l'ouvrage est publié malgré tout, malgré la mésaventure qu'il raconte. Donc il y a ce double jeu sur, en effet, la sonorité de miroir-miroir et le fait qu'un tiroir, c'est un lieu où finissent des manuscrits inédits.
Et puis l'idée du tiroir, le tiroir s'emboîte dans un ensemble plus vaste, qui peut être une armoire ou une commode ou un tiroir de bureau. C'est le lieu peut-être aussi où l'on cache les choses, où l'on abandonne effectivement soit un manuscrit. Dominique Drouin, dans vos tiroirs à Villapourçon, il y a d'autres livres déjà écrits qui attendent un éditeur.
Non, qui n'attendent pas d'éditeur, puisque en fait l'éditeur, j'ai pris l'option de l'être moi-même. D'ailleurs, j'ai beaucoup réfléchi à cet aspect-là. Pourquoi s'éditer soi-même ? Il y a beaucoup d'art où en fait on ne demande pas un intermédiaire d'intervenir. Je pense à des peintres. Il y a pas d'éditeur de peintres. Il y a pas d'éditeur de.
Il y a des galeries.
Il y a des galeries, mais qui n'ont pas le même rôle. À ce moment-là, on va dire que la galerie, pour moi, ça serait plutôt pendant des salons ou des librairies. Mais ce ne sont pas des gens qui vont prendre le risque financier de produire une œuvre. Je considère aujourd'hui que un certain nombre d'auteurs devraient assumer aussi ce risque financier, de se dire, si j'ai foi en ce que je fais, pourquoi demanderais-je à un tiers de prendre la responsabilité financière d'un éventuel échec, en tout cas commercial ? Donc moi, j'ai pris la décision en fait de méditer moi-même, étant donné que par ailleurs, pendant toutes les années qui ont séparé l'écriture et la diffusion de ce livre, il y a eu énormément de progrès dans les techniques d'impression du livre, et notamment tout ce qui est impression à la demande. On peut aujourd'hui publier à très petit volume une œuvre, et l'essentiel pour moi, c'est que le livre existe et qu'il arrive dans les mains des quelques lecteurs qui peuvent être intéressés.
Revenons d'ailleurs sur le nom de votre petite maison d'édition, Scripto Sum, référence au latin. Ouais. Scripto, j'ai écrire, sum, je suis. Il y a effectivement cette, j'allais dire encore, imbrication, peut-être tiroir. Je suis, donc j'écris, donc j'existe, donc je suis.
Voilà.
C'est presque un... C'est un peu le « je pense, donc je suis » cartésien, revisité par Dominique Drouin.
Oui, enfin, ce n'est pas aussi ambitieux que ça. Disons que c'est un peu plus flou dans l'association, mais le but, c'est quand même que ressorte de ce terme, de ce néologisme, en fait, latin, en effet, l'association du scripto, donc de l'écrit, et du sum, de l'être. C'est-à-dire que pour moi, l'écriture est un projet avant tout existentiel.
Bonne soirée sur Radio, on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité, Dominique Drouin.
Dancing to the music vibe, and the boys, just the girls in their hair, while the shot men who just sit way over there, and the songs they get louder, each one better than before. And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? And where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life, and you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? So you're heading down the road in your taxi for four, and you're waiting outside Jimmy's front door, but nobody's in and nobody's home till four. So you're sitting there with nothing to do, talking about Robert Iger and his Motley Crue. And where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the songs, thinking this is a life. And you wake up in the morning and your head is just the stars. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep tonight? And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head is twice the size. Where you gonna go? Where you gonna go? Where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep?
Votre rendez-vous littéraire sur Radion, Stanicia, donc d'Angélique Ionatos, un choix de notre invité Dominique Drouin, qui est ce soir sur les banquettes de Wagon Livre pour nous présenter son roman intitulé Tiroir, aux éditions Scripto Sum. Dominique, il y a une magnifique description de paysage, et là aussi je crois que il y a cette grande haleine pneumatique dont parlait Claudel, ce souffle du langage qui transparaît dans les pages. Il y a un vrai travail que l'on sent intense sous ta plume, dans notamment les allitérations, avec beaucoup de consonnes sifflantes, où il y a beaucoup de F, beaucoup de S. Et ce souffle me semble être bien souvent très très proche de l'inspiration qui traverse et habite l'écrivain. Alors je vais te demander de nous lire ce passage qui se trouve page 145, donc un extrait de Tiroir, tiroir, lu par l'auteur Dominique Drouin.
Or, bien qu'il fît un temps clément et que le paysage méritât quelques détours, j'étais là pour ça. Et les promenades n'étaient que le condiment sur ce plat principal, écrire. J'enfourchais alors une bicyclette laissée à ma disposition. L'air frais de la toute première aube me fouillait le visage. Je continuais à pied et, dans une lenteur solitaire, salutaire à l'expiration. Au visage, je sentais les fils de la Vierge barrant les chemins que mon passage déflorait. J'entendais chanter toutes les gorges emplumées, imbues du jour nouveau. J'attendais de ce séjour que les petites voiles de mon âme se gonflassent au lieu de faceiller comme elles le faisaient depuis des mois où je vivais reclus, sans projet. Mais très vite, je craignis que mon cerveau n'en pinçât que pour l'enfilade des sites que j'allais traverser. Étale, posée sur un champ tel une fenaison, une gaze de brume s'irisait dans l'aube. Un jeune taureau l'enfourchait de ses cornes par jeu et détachait même, mêlé à son souffle de bête heureuse, des volutes par moments colorées à l'onde rouge du soleil rasant. Les panaches bleus issus des maisons, comme des génies indolents, se couchaient dans la ramure brune. Allongé sous un arbre, mes pieds touchant le sien, dans ses frondaisons jaunes se perdant son tronc mince et droit que je vins à regarder comme un funambule regarde son fil, et dès lors un vertige me prenait, infini comme le vide concave où repose la terre.
Un extrait de Tiroir, tiroir, le roman de Dominique Drouin que vous venez d'entendre à l'instant nous lire un extrait. Dominique Drouin, nous avons dit combien le nom de votre maison d'édition Scriptosum faisait se confondre existence et écriture. Pour vous, et vous Dominique Drouin, tout comme votre narrateur, pas de vie sans écriture, pas de vie sans écriture, c'est obsessionnel. C'est le moteur de votre existence.
C'est l'image la plus précise, ce serait la vertébration et la structuration, en effet, de mon existence. D'aucuns assimilent le travail d'écriture à un sas vers la mort. Je n'ai pas d'idée très précise là-dessus, sur la connivence entre l'écriture et la mort. Il y en a un certain nombre qui ont écrit là-dessus. On s'aperçoit que c'est beaucoup plus ambigu que ça. Enfin, en tout cas, moi, je m'aperçois que c'est beaucoup plus ambigu. Ne serait-ce que entre la vision de Marcel Proust, qui considérait que la vraie vie, la vie consciente, c'est la littérature, et un moyen terme comme celui de Duras, disant que écrire, c'est n'être personne. Elle le dit dans Écrire, je crois. C'est-à-dire qu'on s'extrait tellement de soi dans l'écriture que le projet d'écriture prévaut sur l'existence même. De là à dire qu'on est en train de négocier avec la mort, c'est une chose que je ne ressens pas trop, en fait.
Peut-on aller jusqu'à affirmer que l'écriture, c'est un sas entre la vie et la mort ?
Bien, non.
Un intermède ?
Non, juste. Enfin. Il y a une idée de s'imprimer soi. Il y a une idée. C'est un peu comme si. Enfin, on peut imaginer. Je vois assez bien l'image de ce rouleau qui est la vie et qui tourne souvent à vide, qui tourne souvent, qui se répète, qui n'a pas forcément. Et puis quelque chose s'imprime à partir de cette rotation sur une feuille. Mais tout ça, c'est bien des processus vivants. C'est pas des processus qui ont un rapport avec la mort, même si l'écriture a une certaine fixité. Mais comme toute œuvre d'art, il faut arriver à fixer quelque chose, que ce soit une peinture, une musique, ou que ce soit une œuvre littéraire.
Nous parlons de l'existence. Il est beaucoup question du souffle, même de l'essoufflement du narrateur. Alors essoufflement, peut-être parce que le fait de chercher un éditeur, cela fatigue le cœur. Ça, il faut avoir une bonne respiration, à monter, à gravir les escaliers, courir à droite et à gauche pour trouver un éditeur. On peut imaginer aussi, bien souvent, votre narrateur angoissé. Parce qu'effectivement, s'il n'est pas reconnu par un éditeur, c'est aussi sa vie peut-être qui n'est pas reconnue. C'est aussi la prise de conscience, je suis vivant parce que je peux être publié.
Tout à fait. Être refusé pour un certain nombre d'auteurs, être refusé par un éditeur, c'est quasiment une condamnation à mort. Je rappelle, pour reparler encore de Marguerite Duras, qui avait vaguement menacé les éditeurs au moment où elle n'était pas encore connue, de suicide si on ne la publiait pas. D'autres ont trouvé des issues un peu plus tragiques et réelles. Je pense à l'auteur américain John Kennedy Toole, qui, à 32 ans, s'est suicidé et qui avait écrit La Conjuration des imbéciles et qui a reçu de façon posthume le prix Pulitzer, ce qui est quand même une consécration peut-être difficile à vivre, en tout cas pour sa mère.
Le narrateur de Tiroir, tiroir dit écrire, mais aussi nécessaire que respirer. Et d'ailleurs, à la dernière page, où effectivement il accepte quelque part de renoncer aux attentes éditoriales pour, j'allais dire, se consacrer à respirer, à vivre sa vie, tout simplement, eh bien, dans la dernière page du roman, le narrateur déclare: Mon souffle est nourri et je m'oxyde paisiblement.
C'est intéressant de vous entendre parce que je pense qu'il y a les livres sont toujours traversés d'innervations inconscientes. L'auteur n'a pas forcément conscience de l'ensemble de ces résonances. Et le fait que vous me dites en effet que la thématique du souffle est permanente dans le livre, elle est intéressante puisque c'est quand même là-dessus que s'ouvre aussi le livre sur cette difficulté à respirer. Mais qui est réellement, alors là, de l'ordre du vécu, parce que même si l'ensemble est fictionnel dans ce livre, même si les péripéties et les rebondissements sont complètement fictionnels et imaginaires, il y a toujours un peu de soi, et notamment dans le germe de cet ouvrage, qui est la deuxième phrase, en fait, des petits feux m'assaillaient les entrailles comme si, moi, etc. Là, il y a effectivement, à la fois par la ponctuation, et par la thématique, un jeu sur la difficulté de respirer. Mon souffle parvenait à peine au débit vital, comme je le dis au début. En effet, je trouve intéressant que vous mettiez en regard cette première et cette dernière page qui confirment en effet l'écriture comme un phénomène de respiration.
Et comme un feu qui feu
Un
ardent,
feu sacré.
quelque chose qui effectivement est sacré et vital.
Tout à
Donc,
fait.
page 13, tout début du roman, je vous cite Dominique Drouin. Cette fois-ci, il s'agit de lecture, puisque bon, lecture et écriture sont étroitement liées. Lire, ma pente douce et paresseuse, mais qui étayait l'autre versant abrupt, écrire. Vampire des lettres, j'avais un urgent besoin de ce sang lexical dont, sevré, je produisais moi-même des bribes par appel au tréfonds de mes moelles. Et puis il y a cette très très belle phrase que je voudrais absolument lire au micro pour celles et ceux qui ont la gentillesse de nous écouter ce soir. J'allais dire la définition revisitée du livre par le narrateur, mais sous la plume de l'auteur Dominique Drouin, un livre à voir et à palper, à humer. La première fois que j'en avais ouvert un, c'est loin à présent, mais l'image m'en est venue bien après. C'était comme feuilleter les lamelles d'un champignon hallucinogène. C'est magnifique. Bon, la nature est présente dans le roman. Il y a un lyrisme, il y a un souffle, une admiration aussi. La nature un peu réconfortante,
Oui.
en tout cas pour votre narrateur. La lecture, bien sûr, très, très présente. D'ailleurs, l'appartement du narrateur, c'est d'ailleurs assez drôle. Il y a des livres partout, hein. Partout, il y a des livres, la salle de bain, derrière le frigo,
Et
partout.
c'est un
Une
tout petit
invasion,
appartement.
voilà, tout petit appartement. Un narrateur qui vit, non pas chez lui, mais qui vit chez ses livres.
Voilà. Mais il n'y a pas que des livres, hein. Il y a aussi des cafards, il y a quelques allusions,
Il y a une mouche morte.
des mouches mortes, exactement. Oui, parce qu'on oublie, on a peut-être tendance en parlant de ce livre, à ne voir que l'aspect stylistique, et vous l'avez bien illustré, mais il y a aussi, comment dirais-je, de vrais clins d'œil à la trame narrative classique, d'un rebondissement, d'une intrigue, etc.
Oui, parce que votre narrateur travaille en fait en région parisienne, il est dans une société qui est installée à La Défense, et en fait c'est quand même un garçon passionné d'écriture qui aimerait se consacrer entièrement à l'écriture, vivre de sa plume, et qui en fait va prendre un congé sabbatique, et qui rencontre des gens qui sont aussi passionnés par le livre. Il y a ce couple, par exemple, qui anime un café-librairie, il y a cet écrivain Gikian,
Albert Gikian, qui est philosophe, lui,
qui est
plutôt.
un philosophe. Et puis il y a cet affreux chien, ce cabot qui aboie sans arrêt, et finalement votre narrateur décide de le supprimer en jetant une brique du haut de la fenêtre qui va tomber sur la caboche du cabot. Voilà
Tout à
encore un
fait.
beau jeu
Tout à
de
fait.
sonorité.
Alors, évidemment, après coup, c'est les actes de ce personnage, en fait, ont tendance à être vus avec un objectif qui est tout simplement de défrayer la chronique à un moment ou à un autre, en tout cas d'attirer l'attention sur lui. Et à un moment, il y a une illustration assez forte de ce thème de attirer l'attention sur soi pour, et je sais si c'est un thème actuel en tout cas,
Pour créer le buzz, en fait, il faut faire un crime, commettre un crime, un meurtre, Et le meurtre, finalement, il est un peu lâche quand même, puisqu'il se contente, dans un premier temps, de tuer un chien qui aboie.
Mais qui mettait à mal aussi son confort d'oreille aussi, hein, puisqu'il a besoin aussi, lui, d'être dans la solitude sonore, et les aboiements de ce chien devenaient insupportables.
Dominique Drouin, rassurez-nous, vous n'avez pas jeté de tuiles ou de briques sur la tête d'un chien.
Non, jamais.
Très bien. Alors, pour vous remercier, on va écouter Jimmy Somerville. C'est vous qui avez choisi cet intermède. For a Friend. Et là, ça va un petit peu... C'est rare qu'on ait du Jimmy Somerville dans Wagon Libre. On se retrouve dans quelques minutes avec Dominique Drouin pour Tiroir, Tiroir. Bonne soirée sur Radio.
Une vie, t'es toute ma vie, et je t'ai dans le sang. Tout, 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 tout. C'est court, 20 ans, 20 ans, c'est toute une vie, t'es toute ma vie, je ne pourrais pas faire ça. Tes yeux,
devant les micros de l'émission littéraire de Radion, Wagon Livre, une émission enregistrée à l'hostellerie de La Poste à Avallon, courant août, que nous vous proposons ce soir sur votre radio locale. Il est sur les banquettes de Wagon Livre, c'est Dominique Drouin, auteur du roman intitulé Tiroir, Tiroir, un roman qui raconte le parcours d'un écrivain qui cherche à se faire publier. Et justement, à un moment... votre narrateur, écrivain, décide, éventuellement pour faire avancer sa carrière frémissante d'écrivain, d'aller rencontrer un agent littéraire. Et nous allons lire l'un et l'autre ce passage. Tenter de convaincre un agent littéraire ne servit qu'à m'écraser un peu sous le poids des honoraires qu'il me demanda et beaucoup sous celui des conseils qu'il me donna. Pendant que je l'écoutais avec la patience résignée du malade, il parlait avec la désinvolture du praticien sûr de son diagnostic.
« Vous n'y êtes pas, mon vieux. Hors du coup, du négligé, du cynique, bon sang. La terre brûlée, la lourdeur désillusionnée, la duplicité dans le désabusé. Vous connaissez ? Non, bien sûr, et vous y répugnez. Eh bien, commencez par, je ne sais pas, bon sang. Tenez. »
Il me tendait mon manuscrit.
« Tenez, je suis une merde. Comme l'étron canin, je fais le trottoir. Voyez, ça c'est l'époque. Bon sang. »
En regardant sa face grasse et luisante de sueur, je doutais qu'il eût aussi bon qu'il le souhaitait.
Et encore, brodez-moi là-dessus et revenez me voir, je vous le placerai, moi, votre bouquin.
Dominique Drouin, que pensez-vous, justement, des succès, des best-sellers qui sont très, très, très souvent, j'allais dire, mis en valeur sur les étals et dans les rayonnages de nos libraires, de nos librairies, plutôt?
Là, je ne ferai que redire ce que beaucoup ont dit. Je prendrai juste un récent propos de Jean-Yves Tadié, qui est le grand spécialiste de Proust, et qu'il dit... Qu'il entre souvent dans les librairies, il prend un ouvrage et il prend la première page. Et s'il ne voit pas de style, comme c'est souvent le cas, il arrête rapidement, comme il dit, c'est-à-dire la première page. J'ai à peu près ce même réflexe, en fait, quand j'entre dans une librairie, je me fie bien évidemment au titre, au quatrième de couverture et en dernier ressort, à la première page. Et... aujourd'hui, sans citer de nom, je crois que des gens comme Éric Nolot l'ont fait suffisamment. Il y a en effet un certain nombre d'auteurs dont on se demande pourquoi ils ont publié, imprimé des textes qui n'ont strictement aucun intérêt ni aucune valeur.
Alors, je reprends la citation de Jean-Yves Tadié que vous avez mentionnée, Dominique Drouin. Tadié écrit... Le style, ça ne fait pas que séduire, ça crée aussi de la répulsion. Alors vous, vous avez un style, Dominique Drouin, et c'est vrai
Merci.
Que c'est très difficile parfois, j'imagine peut-être pour ceux qui ne sont pas habitués à une littérature raffinée qui cherche à se renouveler, à surprendre, à étonner, vous pouvez parfois paraître pour un auteur difficile, j'allais dire en cela... qu'il faut devenir votre suffisant lecteur comme Montaigne le réclamait en son temps, c'est-à-dire un lecteur complice qui accepte de pénétrer dans le laboratoire linguistique de Dominique Drouin.
Je pense qu'aucun texte n'a d'intérêt si ce n'est pas pour ce projet-là, ce projet de, en effet, d'étonner, de surprendre et de faire voir le monde d'une facette avec une étrangeté qui ne nous était pas familière, en effet, puisque par définition, on est dans l'étrangeté. Quel est l'intérêt? Ça me rappelle Éric Chevillard qui parlait de... Alors on va dire donner des noms. Éric Chevillard, qui est un excellent écrivain, et qui parlait de... On va dire encore dire, donner un nom, d'Alexandre Jardin, et qui disait que ce genre de littérature confortable, en fait, c'est ce qu'on peut demander à un matelassier, comme il dit, mais pas à un écrivain. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut sortir des sentiers battus, il faut forcément faire œuvre et donc aller désarçonner le lecteur, mais le lecteur que l'auteur lui-même peut être à sa propre relecture.
Alors, je parlais de laboratoire linguistique de Dominique Drouin. Vous utilisez le subjonctif imparfait, vous faites la concordance des temps avec cet imparfait du subjonctif qui peut paraître aujourd'hui un peu précieux, en tout cas hautement littéraire.
Oui, mais la concordance des temps l'exige. J'ai des exemples où l'absence de subjonctif imparfait dans une phrase à l'imparfait pose des problèmes de concordance. Donc pour moi, à partir du moment où il y a rigueur grammaticale et validité de la sonorité et du balancement des temps, je n'ai pas à me justifier là-dessus. Sur le...
Langue poétique aussi, sous votre plume, par exemple, on peut y identifier des synesthésies baudelairiennes, c'est-à-dire l'association de deux sensations. L'exemple, c'est une odeur piriforme. Bon, l'odeur, bien sûr, l'olfactif est piriforme en forme de poire. Ça, c'est extraordinaire, cette combinaison de deux sensations, c'est effectivement très baudelairien, et donc poétique.
Tout à fait, mais j'espère qu'on entend, qu'on comprend. L'image, il ne s'agit pas de faire de l'image pour de l'image, il ne s'agit pas de faire du linguistique pour de linguistique. Pour moi, l'odeur piriforme du tilleul, c'est parce que réellement, en juin, le tilleul diffuse une odeur à travers ces fleurs qui, pour moi, évoque un petit peu la poire.
Véritable travail donc poétique. Par exemple, cette phrase sous votre plume, Dominique Drouin. « Des coussins de cendres circulaient incessamment, nuages magmatiques qui restaient secs comme cœur de pierre. » Là, on entend très bien l'allitération en sifflante, en S. Les métaphores aussi sont absolument superbes. « La gelée sonore de tronçonneuse à l'œuvre. » Ça, c'est magnifique. Et puis, un petit peu plus loin, c'est aussi une poétisation du réel. C'est une façon, quelque part, par le biais de la langue, de rendre plus beau une société qui, finalement, a perdu un peu les repères de la beauté.
C'est la dynamique littéraire par excellence, et c'est notamment, en effet, Dieu sait si Marcel Proust s'y référait, la nécessité, en effet, de voir des analogies, des correspondances, des résonances entre le réel et la façon dont ça se met en langage dans la conscience.
Autre métaphore, l'insistant burin du réveil. Et puis, il y a une image, mais il y en a plein, je pourrais en citer plusieurs. Je retiens celle-ci, « Le train embroché de lentes nappes de brouillard ». Je trouve ça vraiment superbe. Alors, il y a cette homonymie, clin d'œil à Proust. « Longtemps, je me suis couché de bonne heure ». Et on n'est pas à « de bonne heure », trois termes, mais « de bonne heure » en deux termes. Alors, « couché de bonne heure », se lever tôt aussi, Dominique Drouin. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. En tout cas, restez avec nous. Il y a aussi un oxymore absolument remarquable, Dominique Drouin, que j'ai relevé. C'est musique muette. En tout cas, la musique, elle est au rendez-vous. On écoute Diana Krall, Black Crow. Et je rappelle que si vous avez manqué le début de notre échange avec Dominique Drouin, qui est notre invité ce soir, vous retrouverez d'ici quelques jours cette émission en podcast sur le site de Radion, émission que vous retrouverez bien évidemment dans son intégralité. Vous allez donc sur le site de votre radio locale, rubrique émission, puis wagon livre, et vous allez très rapidement pouvoir cueillir l'entretien de ce soir. Tout de suite, Diana Krall, bonne soirée avec nous, on se retrouve dans quelques minutes.
Flying dark and ragged tree. He's black as the highway that's leading me. Now he's diving down to pick up on something shiny. I feel like that black crow flying in the blue sky. Took a ferry to the highway, then I drove to a pontoon plane. I took a plane to a taxi, and a taxi to a train. I've been traveling so long, how am I ever gonna know my home when I see it again? I'm like a black crow in a blue, blue sky. Of love and music, my whole life has been illumination, corruption, diving, 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 diving down to pick up on every shiny thing, just like that black crow flying in a blue. Thank you.
looked at the morning after being up all night. I looked at my haggard face in the bathroom light. I looked out the window and saw that rocket soul take flight. I saw a black girl flying in a blue sky.
Après Diana Krall, de reprendre l'entretien. Dominique Drouin, vous êtes, je le rappelle, donc l'auteur du roman Tiroir, Tiroir. Il nous reste très peu de temps. Je voudrais vous lire, puisque vous définissez l'écrivain. Quoi de plus jouissif que cette position de démiurge, penché sur sa machine à écrire comme un métier à tisser, qui travaille le filandre fragile d'un récit, d'un conte, d'un essai, ou que celle d'une parque qui, par nécessité, le coupe net. L'œil de Dieu était sur moi, veillant à ce que je ne le plagiasse. Beau subjonctif imparfait.
Tel qu'on l'entend, on se dit, mon Dieu, quelle prétention. Il faut savoir que ça introduit juste une partie de l'intrigue dans cet ouvrage, à savoir en effet la mort d'Albert Gikian, le philosophe rencontré par hasard.
Bon, la mort est présente aussi dans le roman. Il y a la mort de la mouche, la mort du chien, on l'a dit, qui reçoit donc une brique sur la tête, brique jetée du deuxième étage ou troisième étage par le narrateur. Puis il y a la mort également du grand-père du narrateur, de la mère. L'écriture étant peut-être aussi salvatrice.
L'écriture fixe, en effet, il y a cet aspect de fixation d'un destin, d'une aventure, l'aventure vivante. En tant que telle, elle n'a pas partie liée avec la mort. Elle est au contraire la vie exaucée dans son plus haut niveau.
Il y a une très jolie image que vous mettez en valeur dans votre roman. C'est une bibliothèque qui est vue un peu comme un columbarium.
Oui, chez l'éditeur.
C'est assez extraordinaire aussi. Alors, parmi l'avalanche de titres de la rentrée littéraire 2013, retenez Tiroir, Tiroir, le roman de notre invité Dominique Drouin. C'est le choix d'une écriture dense, raffinée et recherchée, un vrai travail d'orfèvre de la langue. Tiroir, Tiroir est disponible notamment sur le site scriptogramme.free.fr. Le site, c'est... Ici, c'est une ombrelle sous la pluie. Et sur votre site, Dominique Drouin, on y trouve des extraits de nouvelles, de vous bien évidemment, le texte intégral d'une nouvelle que l'on peut télécharger gratuitement en format PDF, une nouvelle intitulée « Momo le dur », et il y a une rubrique tout à fait intéressante intitulée « Trois mots sûrs » où sont répertoriés les auteurs préférés de notre invité, à savoir Paul Auster, entre autres, Éric Chevillard, Philippe Claudel, Marguerite Duras, Annie Ernaux, Gabriel Garcia Marquez, Sylvie Germain, et on pourrait en mentionner d'autres.
Hein. Bien sûr, d'autres viendront rejoindre forcément cette liste.
Autre facette de votre écriture, il y a des extraits d'une pièce farfelue en trois actes qui a pour titre « On dit ». Et puis on peut vous adresser un petit courriel à l'issue de cette émission,
hein, sûr,
à l'adresse mail suivante.
Celle qui est à disposition sur le contact.
Scriptogramme@free.fr ou alors vous contact. La transmettez à yannick.petit@radion.fr. On se fera un plaisir, bien
tout
évidemment.
Et j'en suis très friand.
De vous retourner les messages que les auditrices et auditeurs pourraient nous adresser. Merci Dominique Drouin d'avoir été avec nous.
Merci Yannick de m'avoir accueilli à bord d'un train aussi prestigieux.
Et nous étions, je le rappelle, accueillis à l'hostellerie de la Poste à Avallon pour l'enregistrement de cette émission. On se retrouve dans une poignée de secondes avec Evelyne Levallois, notre libraire partenaire de la librairie L'Autre Monde à Avallon pour, bien évidemment, un coup de cœur de libraire. Rendez-vous dans quelques secondes. Bonsoir Dominique Droit, vous restez avec nous pour écouter le coup de cœur du libraire.
Bien sûr.
Bonsoir chère Evelyne.
Bonsoir Yannick, bonsoir à toutes et à tous.
Alors, le coup de cœur de ce mercredi 25 septembre, c'est alors un nom un peu exotique. Ça sent, à mon avis, l'Europe du Nord. L'Islande, Bergsvein Birgisson, La lettre à Helga, et c'est aux éditions Zulma.
Oui,
il s'agit... L'ai-je bien prononcé, au moins ?
Mais formidable, tu es très très fort en islandais, en fait.
Voici les débuts encourageants.
Il s'agit donc, dans La lettre à Helga, d'une vraie lettre, la lettre d'un homme, aujourd'hui un vieillard, hein, mais qui fut autrefois un homme fort respecté dans son village, dans son pays, hein, l'Islande d'après-guerre, un pays très très rural encore à ce moment-là. Et Bjarni, parce qu'il s'appelait comme ça, Bjarni était le surveillant général des troupeaux, c'est-à-dire que c'est lui qui emmène le bélier de ferme en ferme, c'est lui qui s'occupe des agnelages quand les autres hommes sont en mer. Enfin, vous voyez, il a un rôle vraiment important dans ces sociétés rurales. Donc, c'était un grand gaillard bien solide, assorti d'une bonne réputation professionnelle et amicale. Un type bien, on va dire. Et malgré cette stature réelle et sociale, Bjarni, il a quand même un regret dans la vie. C'est qu'il n'a jamais osé suivre la femme qu'il aimait. Il est resté avec son épouse qu'il n'aimait plus. Il a laissé Helga dans un mariage insatisfaisant, et surtout il a laissé quelqu'un d'autre élever sa fille. Et ça, il s'en est toujours un peu voulu. Il a jamais regretté de ne pas avoir suivi Helga en ville, parce que c'était un terrien profondément, un campagnard, mais il a jamais osé franchir le pas social de casser son mariage et tout ce que ça pouvait inclure pour aller vivre avec la femme qu'il aimait et avec son enfant. Donc il s'est vraiment, jamais vraiment pardonné d'avoir abandonné sa fille, notamment. Aujourd'hui, Bjarni est vieux, et il a enfin le courage d'écrire cette lettre à Helga, la lettre qu'il aurait tant voulu lui écrire pour expliquer pourquoi il n'avait pas eu le courage. C'est un texte très poétique, parfois assez charnel, hein, on va le dire comme ça, fourmillant de détails sur l'Islande des années 50, et c'est un roman qui continue de vous habiter longtemps encore après qu'on ait terminé. Un beau roman d'amour assez court, 130 pages, qui touchera aussi bien les hommes que les femmes. Hein, c'est pas du tout un roman sectaire, en ce genre-là. Jolie lecture et un joli livre.
Donc on rappelle le titre, La lettre à Helga, l'auteur Bergsvein Birgisson, et c'est aux éditions Zulma. Merci Evelyne pour ce coup de cœur. Rendez-vous la semaine prochaine, j'espère.
Avec plaisir, merci Yannick, bonsoir.
Bonsoir Evelyne. Je rappelle à celles et ceux qui auraient oublié ce grand événement culturel, ces Livres en Vigne, plus que quelques jours au château du Clos de Vougeot pour la 6e édition donc, de Livres en Vigne qui se tiendra les 28 et 29 septembre prochains. Une fête du livre au cœur du vignoble bourguignon, présidée cette année par David Fuenquinos. Un très grand nombre d'auteurs seront présents. Vous pouvez bien évidemment consulter le site internet de livresenvigne.com. Vous aurez effectivement la liste des débats et également les noms des libraires participants, les noms de tous les écrivains invités à cette fête. C'est les 28 et 29 septembre prochains. C'est en Côte d'Or, c'est au château du Clos de Vougeot. Et puis, je rappelle aussi, mais cette fois-ci, c'est dans l'Yonne, c'est au Mont Saint-Sulpice, à quelques kilomètres d'Auxerre, 28 et 29 septembre prochains, le Mont des Bulles, un festival de bande dessinée, le Mont des Bulles et de l'imaginaire, plus de 20 auteurs en dédicace, autour cette année d'une thématique qui est celle du monde de Pif. L'entrée est d'un euro, elle est gratuite pour les enfants. Il y aura un très grand nombre d'auteurs. L'invité d'honneur, c'est Philippe Lugui. Il y aura sur place une petite restauration. Ouverture de ce festival de BD samedi 28 septembre à partir de 10h jusqu'à 12h30. Et puis les dédicaces, elles, ont lieu l'après-midi. Toujours jusqu'à 18h30, le Mont des Bulles, 28 et 29 septembre prochain, au Mont Saint-Sulpice. C'est à quelques kilomètres d'Auxerre, c'est pas très loin non plus de Migennes, avec des expositions de planches et de dessins originaux. Prochain rendez-vous de votre émission littéraire, mercredi 2 octobre, à partir de 21h. On vous proposera un entretien avec l'écrivain d'origine russe le plus édité en France. Il s'agit de Vladimir Fedorovski, pour le roman des Tsars, disponible aux éditions du Rocher. Ce sera l'occasion d'un coup de projecteur sur la dynastie des Romanov, dont on célèbre cette année les 400 ans. Souvent brillants et lettrés, mais aussi volontiers violents et autoritaires, ces souverains, dont le premier Michel régna à partir de 1613 et le dernier Nicolas II, fut assassiné en 1917 avec sa famille, eh bien, ces souverains furent pris dans le tourbillon d'une histoire familiale et nationale faite de trahisons, d'assassinats et de luttes incessantes pour le pouvoir. C'est mercredi prochain, 2 octobre à 21h sur Radion, 90.5 dans Lyon et toujours en direct via internet sur le www.radion.fr. Merci de votre fidélité, excellente fin de soirée à toutes et à tous. Au revoir.